Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Que celui qui cherche Dieu dans sa propre vie le trouve en l'apportant aux autres. Amis auditeurs, bonjour. Déjà au VIe siècle, l'Église appelait les chrétiens à la mission, comme en témoigne cet appel de Saint Grégoire le Grand, pape de 590 à 604. L'importance que nous donnons à l'évangélisation dans notre vie dépend directement de l'amour que nous avons envers les autres. C'est notamment ce qu'ont mis en pratique les missionnaires qui sont retournés au Japon après la fermeture du pays pendant plus de 200 ans. Amis auditeurs, vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris qui vous plonge au cœur de l'Asie sur Radio Notre-Dame et RCF. Pour évoquer les relations si particulières entre le Japon et le christianisme à partir du 19e siècle, j'accueille Pierre Sevestre. Bonjour Monsieur Sevestre.
Bonjour Monsieur Saunier.
Pierre Sevestre, vous avez vécu pendant plus de 40 ans au Japon en conseillant de grands groupes industriels français et japonais. Vous écrivez « Chrétiens et Japonais, histoire du catholicisme au Japon » paru aux éditions L'Harmattan en 2024. Alors, Monsieur Sevestre, avant de partir sur le 19e siècle, on va revenir avec vous sur les raisons qui ont poussé le Japon à se fermer pendant 200 ans à toute présence étrangère et notamment à toute présence de missionnaires catholiques au sein du pays.
Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que après un siècle de contact et de pénétration du catholicisme au Japon, les autorités japonaises, le dernier, le premier shogun qui a pris le pouvoir en 1600, a trouvé que la présence étrangère était un danger pour son contrôle de l'ensemble du pays et des domaines féodaux, et en 1614, donc, il a interdit le christianisme, et ses descendants, en 1633, ont expulsé tous les étrangers et fermé complètement le pays, et donc le pays est resté fermé pendant 200 ans.
Et alors, quelles raisons ont poussé les dirigeants japonais à rouvrir leurs frontières ?
Alors ça, ils n'ont pas fait exprès. En fait, c'est l'arrivée des bateaux américains du Commodore Perry qui voulait réouvrir le pays et qui a forcé à le réouvrir. Et les autorités n'ont pas pu faire autrement parce qu'elles étaient dépassées par la technique et l'armement des Américains et des Occidentaux en général, et n'ont pas pu faire autrement que d'accepter d'ouvrir le pays. Alors ils ont essayé de le faire de façon aussi limitée que possible, en gardant les étrangers dans quelques endroits bien précis, mais ils ont dû quand même rouvrir.
Donc cette réouverture, on comprend, elle est tout d'abord diplomatique, commerciale, mais elle a ensuite profité aux missionnaires qui ont donc réinvesti le pays, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui sont les premiers missionnaires qui sont repartis et comment se sont passées les retrouvailles avec les communautés japonaises?
Alors ça s'est passé en plusieurs temps. D'abord, à l'époque, vers 1850, la plus grande organisation missionnaire au monde était les missions étrangères de Paris, les MEP, et qui était déjà partout en Asie depuis une bonne centaine d'années ou un peu plus. Et ils étaient, entre autres, responsables de la Corée. Et donc, en espérant que le Japon se s'ouvre un jour, le Vatican avait demandé au MEP de prendre la responsabilité du Japon. Et pour faire ça, pour s'y préparer, ils avaient envoyé donc un certain nombre de missionnaires, 5, dans l'île de Okinawa. Donc à l'époque, c'était un royaume indépendant qui s'appelait le royaume des Ryukyu. Et donc, à 5, ils sont restés donc plusieurs années à Ryukyu. Et là, ils ont appris le japonais. Et après que des traités aient été signés permettant l'entrée d'étrangers à Yokohama, à Nagasaki et dans un autre dans quelques autres endroits. Donc, ils sont venus et ils étaient donc préparés et ils parlaient déjà le japonais. Mais il y avait un gros problème, c'était qu'ils n'étaient pas autorisés à parler au japonais et les églises n'étaient ouvertes qu'aux étrangers.
Est-ce que les communautés qui ont survécu ont reconnu ces missionnaires et est-ce qu'elles ont été reconnaissantes de ce nouvel apport alors qu'elles venaient de vivre en autarcie pendant plus de 200 ans?
Ça s'est passé, c'est-à-dire que quand les missionnaires sont arrivés, ils ne savaient pas du tout qu'il restait des chrétiens. Et c'est le père Petit-Jean qui donc avait été nommé curé de Nagasaki et qui était dans son église. Et un jour, alors église qui était interdite donc aux japonais, mais il y avait des curieux qui venaient, qui passaient. Et un jour, il a vu un groupe de japonais et une dame qui s'approchait de lui et qui lui a dit « Votre cœur est comme le nôtre et où est la statue de la Vierge ?» Parce que ces chrétiens qui étaient d'Orakami, dans la banlieue de Nagasaki, on leur avait dit donc de génération en génération, un jour les padres vont revenir, et pour les reconnaître, ils seront célibataires, ils obéissent à Rome, et ils ont une dévotion pour la Vierge. Et donc, les ayant, le père Petit-Jean cochait toutes les cases, donc ils se sont fait connaître à lui.
La religion catholique était donc interdite pour les Japonais, Pierre Sevestre ?
Elle était totalement interdite pour les Japonais. Et donc, alors, il y avait eu des persécutions terribles 200 ans auparavant, mais ça avait continué, mais alors ça s'était quand même beaucoup, beaucoup ralenti. Mais c'était toujours interdit. Et donc, le père Petit-Jean et ses aides, le père Locaigne, ont pendant 2 ou 3 ans, de façon clandestine, déguisé en Japonais, allé dans le village d'Urakami, où ils donc faisaient disaient la messe, entendaient les confessions, faisaient des baptêmes. Mais c'était caché. Et en fait, les Japonais savaient assez bien ce qui se passait, mais pour eux, ça ne les gênait pas trop, ils ont laissé faire, jusqu'au jour où les chrétiens d'Urakami ont eu assez d'être cachés, assez de devoir enterrer leurs morts au temple bouddhiste, et donc ont refusé de le faire, et là, les autorités leur sont tombées dessus, il y a eu une persécution terrible, les chrétiens de Rakami, donc 4600 personnes, ont été déportées pendant 3 ans, et il y en a 600 qui sont morts de mauvais traitements pendant les 3 ans qu'a duré ce voyage.
Est-ce que vous diriez que les missionnaires des missions étrangères de Paris ont eu du succès dans leur prédication ? Est-ce que rapidement, on a vu des baptêmes et un renouveau des vocations chez les Japonais ?
Je crois que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. C'est-à-dire que il y avait donc deux endroits différents. Il y avait à Tokyo, où alors là, il faisait de l'évangélisation, j'allais dire, dans le vide. Il commençait à partir de zéro. Et c'était extrêmement difficile, donc ils devaient avoir les conversions une par une. Et ils ont fait quelque chose qu'on appelait l'ambulance, c'est-à-dire qu'ils partaient à 2 ou 3, et puis ils partaient dans la campagne, et au hasard des rencontres, ils commençaient à faire leur évangélisation et à créer des postes. Et puis, à Nagasaki, là c'était très différent, puisque d'emblée, on avait retrouvé les chrétiens, et quand ils ont été autorisés à nouveau à être catholiques, ils se sont retrouvés d'un seul coup avec 70 000 chrétiens qui voulaient revenir et qui avaient été privés de sacrements pendant 200 ans et qui ne demandaient qu'une chose, c'est aller retrouver. Donc là, c'était pas un problème d'évangélisation, c'était un problème d'ajustement, parce qu'en 200 ans, évidemment, leur pratique avait quelquefois un peu dévié, il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait récupérer. Et donc, il y avait ces deux côtés complètement différents.
Et les missionnaires en eux-mêmes ont-ils été persécutés ?
Non, alors les missionnaires n'ont pas du tout été persécutés, contrairement d'ailleurs à la Corée, où à peu près à la même époque, il y a eu des persécutions terribles. Les MEP ont perdu 3 évêques, je crois, et je ne sais plus combien de prêtres. Mais au Japon, non. Ils étaient protégés par leur statut d'étrangers, et donc eux n'ont pas été persécutés. En revanche, donc leurs fidèles, les chrétiens cachés, eux ont été terriblement persécutés jusqu'en 73.
Jusqu'en 73, donc vous nous dites, en 73, il y a un basculement. L'ambassade Iwakura aux États-Unis et en Europe viennent au Japon. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet événement qui est véritablement le basculement dans l'histoire du catholicisme au Japon ?
Oui, les diplomates étrangers avaient protesté contre le traitement infligé par les autorités aux Japonais. Et puis, ça n'a pas eu d'effet jusqu'au jour où le gouvernement, le nouveau gouvernement japonais, donc après la révolution Meiji, après que le shogunat a été renversé, il y avait un nouveau gouvernement. Et ce nouveau gouvernement a fait une mission aux États-Unis et en Europe pour essayer d'apprendre comment on gérait un pays moderne et aussi pour essayer de renégocier un certain nombre de traités. Et partout où ils sont passés, on leur a dit, écoutez, si vous voulez faire quoi que ce soit, la première chose à faire, c'est d'arrêter de persécuter vos chrétiens. Et donc, quand ils sont revenus, ils se sont dit, bon, ça vaut pas le coup, et ils ont arrêté de persécuter les chrétiens.
On reste avec vous, Pierre Sevestre, tout de suite après la pause. On parle de ce renouveau avec, à présent, la pratique du catholicisme qui est autorisée au Japon. Amis auditeurs, on se retrouve tout de suite, juste après ça. Éditeur, vous venez d'entendre Egoac, une musique basque qui nous rappelle que de nombreux missionnaires étaient basques, tant des basques espagnols que des basques français. Et nous retrouvons Pierre Sevestre, auteur de « Chrétiens et Japonais, histoire du catholicisme au Japon » paru aux éditions L'Harmattan en 2024. Pierre Sevestre, avec vous, juste avant la pause musicale, nous parlions de cette autorisation. Enfin, les Japonais peuvent pratiquer leur foi. Est-ce qu'on peut assister, à partir de ce moment, à un renouveau dans l'Église du Japon ?
Oui, alors c'est même du nouveau plus que du renouveau, hein, puisque une bonne partie, c'était la première fois donc, qu'ils avaient un contact avec la religion catholique. Et donc, Les pères MEP ont été responsables et les seuls responsables de l'évangélisation du Japon jusqu'à 1900 à peu près. À partir de 1900, il y a d'autres ordres qui ont commencé à rentrer. Mais donc, ils ont construit des églises un peu partout. Et puis, donc, ils avaient ce que j'ai évoqué. Donc, d'une part, à Nagasaki, une base assez importante, d'environ donc, 70 000 chrétiens extrêmement fervents. Et puis, donc, de l'autre, ils essayaient petit à petit de grignoter Et donc, ils ont réussi, comme ça, à aller jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, avec un certain nombre de difficultés, parce qu'entre-temps, le gouvernement était devenu un gouvernement militaire et qui est obligé de faire des dévotions à l'empereur et dans les temples shinto. Ils ont réussi quand même à se débrouiller et arriver donc jusqu'à une centaine de mille de fidèles, avant la guerre. Ils ont réussi à traverser la guerre, ce qui était vraiment pas facile, mais ils ont réussi à le faire sans trop de mal. Et donc, arrivé après la guerre, là, il y a eu un très grand renouveau. D'une part, parce que tous les missionnaires qui avaient été expulsés pendant la guerre ont pu revenir, et beaucoup d'autres en plus. Un certain nombre de missionnaires qui étaient en Chine ont quitté la Chine et sont donc venus au Japon. Et donc là, il y a eu un boom. En plus, il y avait un besoin de spiritualité très fort de la part des Japonais. Et donc là, ça a monté. Il y a eu un espèce de boom de conversion, de baptême. Et le nombre de fidèles a atteint à peu près 300 000 à ce moment-là.
Est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène d'expansion par la guerre, précisément, qui a marqué les Japonais et qui était peut-être à la recherche d'un sens à leur vie et...
Oui, c'est l'une des raisons, absolument. Donc, après la guerre, après toutes les épreuves qu'ils avaient subies, il y avait un vrai besoin de spiritualité. Et donc, les catholiques n'étaient pas les seuls. Il y a eu beaucoup de protestants aussi, donc, à ce moment-là. Et même un renouveau d'un certain nombre de religions, bouddhiques ou nouvelles religions. Mais donc, le catholicisme, on a profité, oui.
Est-ce que pour vous, Pierre Sevestre, il y a des figures qui symbolisent ce renouveau et cette réévangélisation du Japon? Est-ce qu'on arrive à dégager des personnes qui émergent comme étant des piliers véritablement de cette nouvelle Église?
Alors, il y a des figures qui sont importantes, qui ne sont pas forcément des piliers, mais qui sont des personnes qui ont eu donc beaucoup d'influence. Moi, j'en connais trois que je voudrais citer. Le premier, c'est le docteur Takashi Nagai, qui était un docteur militaire qui était à Nagasaki et qui était devenu chrétien sous l'influence de sa femme, qui était issue d'une famille de chrétiens cachés. Et au moment de la bombe atomique, donc sa femme est morte, lui a survécu, mais il était assez malade parce que c'était un radiologue qui ne se protégeait pas. Et donc il a écrit donc plusieurs livres sur Nagasaki, les cloches de Nagasaki, le plus connu. Et donc c'était un chrétien qui il est mort assez rapidement, mais qui a eu beaucoup d'influence dans le renouveau, ce renouveau d'après-guerre. Il y en a une autre à peu près à la même époque qui, elle s'appelle Satoko Kitahara. C'était une jeune fille convertie et qui a été vivre avec les sans-abri qui étaient très nombreux, donc juste après la guerre, et qui a vécu avec eux. Et qui est morte assez jeune de maladie.
Une mère Teresa du Japon ?
C'était pas tout à fait une mère Teresa, parce que c'était plutôt une sœur. Enfin, une sœur, au point de vue âge, elle était jeune. Et donc, l'un et l'autre sont plus ou moins, j'allais dire, il y a un certain nombre d'études de canonisation. Bon, on ne sait pas si ça aboutira ou pas, mais l'un et l'autre sont candidats. Et la troisième personne que je voulais citer, alors lui est un peu moins en odeur de sainteté donc parmi les autorités de l'Église japonaise, parce que c'est un auteur qui s'appelle Shusaku Endo. C'est lui qui a écrit le livre Silence, qui a donné lieu à un film donc connu il n'y a pas très longtemps. Et c'est un écrivain catholique qui a toujours eu un peu des problèmes à se demander comment on pouvait être à la fois catholique et japonais. Et donc, ça a été l'un des inspirateurs de mon livre pour savoir comment est-ce qu'on peut être les deux à la fois.
Avec vous, Pierre Sevestre, on a traversé les siècles, le 19e, le 20e, et maintenant on arrive au 21e siècle. Aujourd'hui, Pierre Sevestre, quelle est la situation au Japon ?
Ben, l'Église du Japon se retrouve dans une situation qui est relativement difficile parce qu'elle correspond un peu à celle qu'on a en Europe avec une déchristianisation donc assez rapide, mais ils ont une base qui est beaucoup plus étroite hein, que la nôtre, et donc ils perdent actuellement un bon nombre de fidèles. Les enfants, après la confirmation, généralement, donc, disparaissent. Ils sont dans un monde qui n'a plus rien de chrétien et donc a beaucoup de mal à les retenir. Il y a beaucoup de baptêmes d'adultes, mais souvent des gens qui ont plus de 50 ans et qui ça n'arrive pas à compenser, disons, la perte des jeunes japonais.
Et quand on compare avec d'autres pays asiatiques qui ont, eux, une forte dynamique, je pense à la Corée du Sud ou même dans une moindre mesure au Vietnam, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la culture japonaise spécifique qui explique ce manque de dynamisme ?
Alors c'est peut-être la culture ou l'histoire et puis également une question de timing, c'est-à-dire que et la Corée et le Vietnam avaient des communautés catholiques bien enracinées et donc avaient une base qui était beaucoup plus large, tandis que au Japon les chrétiens cachés hein, se sont un peu dispersés et les autres étaient des chrétiens récents et donc qui ont eu beaucoup plus de mal à résister à cette déchristianisation.
Est-ce qu'on peut identifier des inégalités en fonction des régions, des territoires ? En Indonésie, il y a des îles qui sont à très forte majorité catholique et d'autres où il n'y en a quasiment pas. Est-ce que c'est aussi pareil au Japon ?
Non, alors c'est pas pareil. À l'origine, il y avait un centre très fort autour de Nagasaki, hein, et la région de Sotome, Nagasaki, etc. Mais avec le temps, ces gens se sont dispersés, donc maintenant, il n'y a plus vraiment de situation géographique. Hein, c'est saupoudré dans l'ensemble du Japon.
Pierre Sevestre, quand je pense à chrétiens et quand je pense au Japon, je pense à Notre-Dame d'Akita, ces apparitions mariales reconnues par l'Église. Est-ce qu'elles ont eu un impact sur le Japon ?
Elles ont un impact, mais peut-être plus vis-à-vis de l'étranger que vis-à-vis du Japon. Les Japonais ne semblent pas être très, très sensibles hein, donc, aux apparitions ou à cette forme hein, de dévotion, et c'est peut-être beaucoup plus les étrangers qui viennent quelquefois de l'étranger visiter, faire un pèlerinage à Notre-Dame d'Akita.
Est-ce que finalement, ce ne sont pas ces étrangers qui sont l'espoir pour la nation japonaise et pour l'Église du Japon ?
Alors on peut se le demander. Donc moi, je suis ma paroisse est à Yokohama. Et à Yokohama, il y a à peu près la moitié des fidèles qui sont étrangers. Et c'est quelquefois d'ailleurs une cohabitation qui n'est pas très facile avec les Japonais, hein, d'être deux langues et deux cultures complètement différentes, même avec une même religion, dans la même église, c'est pas toujours facile.
Et majoritairement, on retrouve des Coréens ?
Non, les plus grands, c'est actuellement des Philippins. Il y a aussi des Brésiliens dans certaines régions. Et puis, sur des Philippins, et puis des Indiens.
Peut-être pour conclure, parlez-nous du clergé, des monastères. Est-ce que l'on retrouve un dynamisme au niveau des vocations ou au niveau des couvents, des moines, des religieuses ?
Non, malheureusement, il faut bien dire que le clergé donc japonais est tout à fait en déshérence. Ils sont obligés d'importer un certain nombre de prêtres de l'étranger et c'est de plus en plus difficile.
Et vous, quel est votre témoignage personnel, Pierre Sevestre, en tant que catholique au Japon ? Parlez-nous de votre vie de paroisse. Est-ce que vous identifiez des différences avec l'Église de France ?
Oui, l'Église, donc l'Église japonaise a tendance à être un peu trop, à mon goût, un peu trop administrative. Et c'est pour ça que je vous parlais des difficultés de cohabitation que nous avons. Mais d'un autre point de vue, c'est également un moyen de les dynamiser un petit peu et quelquefois de les choquer un peu. Et je crois que ça fait du bien à tout le monde.
Comment est-ce que vous imaginez l'avenir de l'Église au Japon ?
Je ne sais pas, il faudra que si les Japonais veulent s'en sortir, l'Église japonaise veut s'en sortir, il faut qu'ils trouvent un moyen de réintéresser leur jeunesse.
Vous avez donc écrit « Chrétiens et Japonais, histoire du catholicisme au Japon en 2024 ». Est-ce que vous avez des projets, Pierre Sevestre, des nouveaux livres peut-être que vous aimeriez écrire ?
Oui, alors je suis en train de travailler sur quelque chose d'autre, mais qui n'a plus rien à voir avec le Japon. C'est plutôt quelque chose, les relations entre la foi et la science.
Merci beaucoup, Pierre Sevestre, auteur de « Chrétiens et Japonais, histoire du catholicisme au Japon », paru aux éditions L'Harmattan en 2024. Merci beaucoup, Pierre Sevestre, d'avoir répondu à mes questions. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau programme qui nous plonge au cœur de l'Asie. En attendant, au cours de cette si belle semaine sainte, unissons-nous à la passion de notre Seigneur afin de ressusciter avec lui. Amis auditeurs, je vous souhaite un excellent Triduum Pascal. Que la paix soit avec vous.